Et notre invité, il s'appelle aujourd'hui Philippe Chassaigne. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Chassaigne, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bordeaux-Montaigne. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Histoire de l'Angleterre, des origines à nos jours », qui est paru aux éditions Flammarion. Alors avec vous, on va parler du congrès annuel des syndicats britanniques qui s'ouvre aujourd'hui à Brighton, sur la côte sud de l'Angleterre. Il va durer jusqu'en milieu de semaine prochaine, jusqu'à mercredi. Alors si on s'y intéresse tout particulièrement cette année, c'est bien sûr parce qu'il intervient à moins de deux mois du Brexit et en pleine crise politique au Royaume-Uni. Le Trade Union Congress, Philippe Chassaigne, ce contexte actuel, ça lui donne effectivement un rôle, une dimension particulière cette année.
Le Trade Union Congress, de toute façon, c'est la centrale, la confédération syndicale la plus importante en Grande-Bretagne. Elle regroupe pratiquement tous les syndicats, il y en a très peu qui ne sont pas, lui sont pas affiliés. Et donc, ça donne un poids particulier à cette expression du monde syndical. Par ailleurs, le Trade Union Congress a aussi des liens, moins étroits qu'il y a 50 ans peut-être, mais enfin, toujours quand même assez étroits avec le Parti travailliste. Donc, le Brexit, évidemment, fait partie des discussions qui auront lieu. D'ailleurs, c'est le quatrième point qui va être abordé, on parle en séance plénière à partir de
l'ouverture du
congrès. Ouais, voilà.
Ils ont une position commune, ces syndicats britanniques, aujourd'hui, face au Brexit. Est-ce qu'on peut dresser un peu un tableau des différents positionnements ? Qui défend quoi ?
Dans le Trade Union Congress, en fait, le Brexit est abordé essentiellement sous l'angle des risques qu'une sortie sans accord ferait courir aux travailleurs britanniques. Et il y a une inquiétude particulière au niveau du Service National de Santé, le NHS, parce que la sortie sans accord et les limitations à l'immigration, dans ce cas, priveraient le Service National de Santé d'une main-d'œuvre, aussi bien les infirmières, les aides-soignantes, mais également les médecins, qui est composée qui est quand même composée dans une certaine partie non négligeable d'infirmiers et de médecins étrangers.
Est-ce que le retour de barrières douanières éventuelles également en cas de Brexit sans accord, ça fait peur ?
Ça fait peur parce que cela va entraîner ça inquiète en tout cas, cela va entraîner dans l'esprit du TUC, c'est assez probable, une hausse du coût de la vie. Donc de ce point de vue là aussi, c'est une préoccupation importante.
La position des syndicats sur le Brexit, elle pèse vraiment beaucoup aujourd'hui dans le débat politique et dans le débat en général au Royaume-Uni.
Oui, la position des syndicats pèse en raison justement du poids du monde syndical qui est bien plus important, même si les syndicats n'ont plus la grande période des années 70, mais enfin le monde du travail britannique est beaucoup plus syndiqué que le monde du travail français. Par conséquent, le TUC est un acteur de poids en effet.
Et leur point de vue est vraiment pris en compte par les partis politiques, par les députés, par le gouvernement ?
Leur point de vue est pris en compte par le Parti travailliste, qui a des analyses qui sont assez proches. En revanche, je ferai une pirouette, une boutade, mais je ne suis pas certain que Boris Johnson prenne davantage en considération les avis du TUC qu'il prend en considération les avis des députés conservateurs partisans au maintien dans l'Union européenne. Donc là, on a un cas un peu particulier de Premier ministre qui est peu ouvert au dialogue.
Je reviens un instant sur les positions du TUC sur le Brexit. On n'y retrouve pas en interne les débats, les fractures qui traversent aujourd'hui le Parlement britannique sur ce point.
En fait, les syndicats et le Parti travailliste se sont convertis à la fin des années 1980 donc à l'européisme, alors qu'auparavant, le Parti travailliste était beaucoup plus divisé sur la question. Lorsque Harold Wilson est redevenu Premier ministre en 1974, il a organisé le premier référendum sur le maintien dans ce qui était à l'époque la Communauté économique européenne. Donc, à la fin des années 80, les syndicats et le Parti travailliste se sont convertis à l'Europe, pensant que justement les réglementations européennes permettaient de limiter d'une certaine façon l'impact des réformes néolibérales de Margaret Thatcher. Et du coup, cet affichage est resté. Bon, même si effectivement Jeremy Corbyn a fait campagne de façon assez modeste en faveur du maintien, ou assez limitée en faveur du maintien, mais l'européisme est plus fort au sein des partis travaillistes et des syndicats qu'au sein du Parti conservateur, par exemple.
Est-ce qu'on assiste ici au même phénomène qu'au Parlement actuellement, que chez les députés, c'est-à-dire à la naissance d'une sorte de coalition anti-no-deal, anti-sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord avec Bruxelles?
Là, le TIUC est tout à fait sur cette ligne-là. En effet, j'ai le texte de la motion là, qui sera débattu sous les yeux, et il est bien répété à plusieurs reprises que le no deal sera très néfaste pour, ou serait très néfaste pour l'économie britannique et non pour les travailleurs britanniques.
Pour ces syndicats, l'arrivée au pouvoir de Boris Johnson cet été, ça a changé quelque chose?
Ah, ça fait quelque chose, oui, dans la mesure où il y a un Premier ministre qui n'est pas du tout porté au dialogue. Pareil, mais en revanche, bon, que ce soit Theresa May ou Boris Johnson, c'est la même majorité qui est aux affaires. Et par conséquent, en termes de politique économique intérieure, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle beaucoup du Brexit. Mais enfin bon, le gouvernement May, le gouvernement Johnson poursuivent la politique qui était celle de David Cameron après les élections de 2015. Donc, ça, de ce point de vue-là,
C'est
le
plutôt la
TIC est tout à
continuité.
fait opposé. Ah oui, ça, oui, tout à fait.
Une question encore, Philippe Chassaigne, pendant la suspension du Parlement britannique, hein, qui doit intervenir cette semaine pour une durée d'un mois environ, elle a été annoncée par Boris Johnson. Ces syndicats, le TUC, il pourrait voir son rôle accru. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'il reprenne le flambeau de la lutte contre un Brexit sans accord qui est actuellement mené par les députés au Parlement?
En absence effectivement de parlement en session, donc les oppositions à la sortie sans accord peuvent se manifester par d'autres formes. Mais le TUC peut par exemple organiser des manifestations. Les syndicats peuvent organiser des manifestations pour manifester, enfin pour montrer leur opposition à une sortie sans accord au nom justement des risques que ça représentait pour les travailleurs britanniques, comme j'ai expliqué tout à l'heure.
Il y en a des manifestations prévues d'ores et déjà?
Il y en a, mais pas encore de manifestations massives, quoi. Donc, on peut penser qu'effectivement, à la faveur de cette vacance du Parlement, le rôle du TUC, qui sait mobiliser ses militants, pourrait être plus important.
Merci beaucoup, Philippe Chassaigne,
Je vous
d'avoir
en prie.
répondu à nos questions ce dimanche sur RFI. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bordeaux-Montaigne et l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule Histoire de l'Angleterre, des origines à nos jours et qui est paru aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.